Tous. Bah écoutez, c'est pas prévu que je prenne le micro ce matin, mais bon, il paraît que j'ai plein de témoignages à dire. Il y en a au moins pour 3 heures. Hein. Vous êtes tous bien installés. Bah, je suis content, comme disait Alain. C'est vrai, c'est la fête des papas et tout, et je suis super content parce que bah, mes enfants. Quoi, c'est pas mes enfants qui m'ont appelé. Je vais vous dire, c'est moi qui les ai appelés. Je suis comme ça, je vais pas être tracassé toute la journée à attendre leur coup de téléphone. Ça fait que maintenant, je suis content. C'est parti pour la journée. Alors je vais vous raconter, bon bah beaucoup connaissent mon témoignage et tout, mais c'est vrai qu'il y a du monde aujourd'hui, il y a des invités qui sont là, qui connaissent pas forcément le Seigneur, et je vais vous expliquer en deux mots comment j'ai rencontré le Seigneur. Ça s'est passé il y a 23 ans en arrière. Ma fille Charlotte est née, et à l'accouchement ça s'est très mal passé. L'accouchement a duré plus de 14 heures, et ma fille a fait une hémorragie méningée avec un enfoncement de la botte crânienne dû au forceps pendant l'accouchement. J'étais pas converti, j'ai eu une éducation catholique, j'étais pas vraiment converti, et c'est vrai que ça faisait beaucoup de peine de voir son enfant comme ça, et était impuissant. Je me suis voué à tout, j'étais prié dans les églises catholiques, et puis on a même fait appel à, vous savez, dans Normandie, en Touraine, tout ça, il y en a certains villages, il y a beaucoup de choses, et je dirais pas des sorciers, on dit pas des sorciers en France, mais des gens qui font du magnétisme et tout, qui guérissent, soi-disant par photo, par ceci, par cela. J'avais fait appel à une femme comme ça, qui à l'époque demandait 200 francs. Bon, puis j'avais donné le billet de 200 francs et tout. Et puis il y a 23 ans, j'avais ma sœur Annick qui était là, une chrétienne, elle, qui était convertie. Puis je vous cache pas que on n'était pas du tout intéressés. Hein. Fallait surtout pas nous en parler. Et puis, bah, comme c'est son enfant, j'ai dit, bah, je vais aller voir, on sait jamais, il peut se passer peut-être quelque chose. Et on est allé à cette réunion à Évreux. Et je vous cache pas que quand je suis arrivé, ça m'a fait tout drôle parce que j'avais pas l'habitude. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit des gens qui prient, on n'a pas l'habitude. Je dis, c'est pas possible, c'est une secte. Ils sont fous là-dedans. Ça prie fort et tout ça. J'étais vraiment choqué, quoi. Je dis, c'est pas possible. Bon, puis j'ai laissé. Je vous cache pas que j'avais qu'une hâte, c'était de partir. Hein. Et puis à la fin, il y a le pasteur, Moïse Haro, qui s'appelait, qui a pris ma fille dans les bras. Et là, ça m'a fait drôle, j'ai dit, oh là là, ça y est, il y a le gourou qui s'y met, là. Et puis, il a pris ma fille dans les bras, il a mis la main sur la tête, et il a prié, tout simplement. Bon, moi, j'ai repris ma fille, on est reparti, elle était suivie à l'hôpital Necker à Paris. Et le lundi, quand on l'a ramenée à l'hôpital Necker, donc comme elle était dans un service de recherche, on ne savait pas vraiment ce qu'elle avait. Alors, les examens, c'était simple, c'était scanner, IRM, ponction lombaire. Bon, il s'est passé le lundi, il s'est passé le mardi, le mercredi, coup de téléphone de l'hôpital Necker. Et je vous cache pas qu'à cette époque-là, avec ma femme, on s'était préparé au pire. Et comme l'hôpital nous appelait, on s'est dit, bon, ben ça y est, ça doit être la fin. Là. Ils nous ont dit, surtout, quand vous venez, vous allez directement dans le bureau du docteur Couder. Et on est arrivé là-bas, dans le bureau du docteur Couder. Et le docteur, il nous a dit comme ça, bon, ben voilà, messieurs, dames. Ça, c'est ce qu'on a fait depuis lundi et mardi, les scanners, les IRM. Et ça, c'est ce qu'on a fait depuis plus d'un mois. Et puis nous, bon, ben, on ne sait pas lire un scanner, un IRM. Et puis ils nous disent, ben, écoutez, on ne comprend pas parce que votre fille, elle est guérie. Incroyable. Il dit, on ne comprend pas. On lui donnait du gardiénal pour éviter les convulsions. Et là, elle faisait des calcifications au niveau du cerveau et tout. On ne comprend pas, il n'y a plus rien. Votre fille est guérie. On ne sait pas pourquoi. Alors vous prenez vos filles et puis vous partez. Tout simplement, on est parti. Mais ce qui était incroyable, c'est que moi, à l'époque, ben, je croyais que c'était le guérisseur. Ah oui, je ne croyais pas que Jésus pouvait guérir. Et donc, j'avais même redonné un autre billet de 200 francs et un bouquet de fleurs à la femme qui avait fait la guérison. Pour moi, à l'époque. Puis vous savez, j'ai maintenu ma vie. J'ai toujours eu une vie. Moi, j'avais quelqu'un qui avait des gros problèmes avec l'alcool. Et j'ai toujours fait la fête, l'alcool et tout. Et ça a engendré un premier divorce. Je me suis séparé de la mère de mes enfants et j'ai continué toujours dans l'alcool, les fêtes, les boîtes de nuit, tout ce que vous voulez. Heureusement, je n'avais pas la drogue avec moi parce que ce que je buvais, je ne vous dis pas. Sinon, j'aurais été encore... Puis ma vie, elle a continué comme ça. J'ai rencontré quelqu'un dans la région de Lyon. Je me suis remarié une deuxième fois. J'ai créé une entreprise avec cette femme. Donc, j'avais mon petit empire. J'étais bien, j'étais tranquille. J'avais l'argent facile et tout. Je pouvais boire mes petits coups. Je faisais mes petites fêtes et tout. C'était le problème, quoi, ça, l'alcool encore. Bon, j'ai divorcé une deuxième fois. Et là, j'ai tout perdu, par contre. Je me suis retrouvé sans rien, juste une valise. Et à l'époque, je devais avoir, il me restait 2000 euros, c'est tout. Plus rien, plus de meubles, plus de société, plus rien du tout. Tout mon chapiteau, tout mon petit empire s'était écroulé. Et je suis remonté en Normandie, chez une de mes sœurs en Normandie. Et là, je vous crache pas, c'était l'horreur, quoi. Je buvais 1 litre de Ricard par jour, quoi. En un mois, j'ai bu pour 16 000 francs. 16 000, ça pourrait représenter à peu près 1 600, 1 700 euros d'alcool en un mois. Je sais pas si vous voyez ce que ça peut donner. J'étais né paf. À tel point que je voulais même faire le grand plongeon. J'étais prêt à me pendre chez ma sœur. Et ma mère, je sais pas, ma mère m'a appelé ce jour-là. Et je la remercie parce que si elle n'avait pas été là, ma petite mère. Puis elle m'a dit, pourquoi tu vas pas à la salle avec ta sœur Annick? Et je suis parti. J'ai dit, après tout, qu'est-ce que je risque? Je suis allé à la salle avec ma sœur. Puis quand je suis arrivé, il y avait un pasteur. Il m'a pris à part. Puis il a parlé avec moi. Il m'a demandé s'il voulait. Il a prié pour moi. Puis il y avait les larmes qui commençaient à couler. Je me demandais ce qui se passait, quoi. Parce que ça me fait drôle. Je connais pas cet homme. Je me pleurais devant lui. Ça ne, c'était pas moi. Et il m'a dit, écoute, il y a la réunion de prière. Installe-toi avec ta sœur. Et puis tu vas voir comment ça se passe. Puis il y avait une réunion de prière. Il y avait des gens qui étaient là que je connaissais pas. Ouais, il n'y avait pas 2 minutes qu'il avait commencé à prêcher tout ça. D'un seul coup, il y a les larmes, ça me coulait. Après, c'était plus des larmes. On avait l'impression que j'avais les yeux. C'était comme 2 robinets. Ça coulait, ça coulait. Il y avait ma sœur qui était à côté de moi. J'arrêtais pas. Donne-moi les Kleenex, donne-moi les Kleenex, donne-moi les Kleenex. J'aurais pu remplir des seaux. Alors, ce qui était incroyable, c'est que le Seigneur était en train de. Je sais pas, il y a quelque chose à l'intérieur qui se passait. Je suis rentré à la maison, chez ma sœur. Dans mon déménagement, j'avais 2-3 trucs. Dans mon déménagement, j'avais une table de nuit. Et je vous cache pas, si vous aviez vu. Le garage de ma sœur, c'était un bazar pas possible, il y en avait de partout. Et j'ai pris cette Bible, elle, comme si elle m'attendait, le tiroir était ouvert, et j'ai lu. Et puis j'ai vu toute ma vie dans ce livre. J'ai pleuré, j'ai ri. J'ai vu dans quel état j'étais, dans quelle misère j'étais et tout. Je me suis levé, il était sur les coups de 6h30, 7h du matin, je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle avoir vu ce plafond de la chambre de ma sœur. Il était d'un bleu, avait des petits nuages blancs, c'était extraordinaire. J'aurais voulu que le monde entier voyait ça tellement c'était beau. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, pauvre changement total. J'ai jeté toutes les bouteilles d'alcool, j'ai été libéré instantanément de l'alcool. Instantanément, je ne sais pas comment, je ne peux pas l'expliquer ni quoi que ce soit. J'avais perdu à cause de l'alcool toutes mes possibilités commerciales, mes facultés de ceci, de cela, j'avais tout perdu. D'un seul coup, le Seigneur, il m'a tout redonné. Mais il m'a redonné non seulement, mais encore beaucoup plus que ce que j'avais avant. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu être directeur commercial dans des sociétés de chauffage où j'y connaissais rien du tout, mais des trucs incroyables. Et là, je me suis refait une santé financière. Et je gagnais beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, ça a été le problème. C'est le jour du déménagement, parce que vous savez, le Seigneur, il fait des grandes choses. Mais il y en a un qui est toujours à côté, qui rôde, et c'est le diable. Et je n'ai pas fait gaffe. C'est vrai que la Bible, elle était toujours sur la table de nuit. Mais je ne la lisais pas comme d'habitude. Alors je ne vous cache pas que un jour, déménagement, j'ai offert l'apéro à ceux qui étaient venus m'aider. J'ai bu un petit kir. Et là, alors après, j'ai rebelote, je suis retombé encore pire que ce que j'étais avant. Alors là, ça a été l'hécatombe. Je ne vous cache pas. Tout, je ne payais plus mes loyers, je ne payais plus mes EDF, l'électricité, l'eau, tout ça, je ne payais plus rien. Je dépensais en moyenne entre 200 et 250 euros au bar par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner. C'est l'horreur. L'horreur. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans un bar. Je ne peux pas dire double Ricard parce que les petits Ricards, c'était trop petit dans les bars. Et il y a un gitan qui est venu et il savait que je connaissais un petit peu les choses du Seigneur. Il m'a juste dit, tu ne vas pas rester dans cet état-là, Francis, quand même. Je ne vous cache pas, ça m'a fait réfléchir. C'est comme s'il m'avait mis un hypercute. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, lui? Et il m'a dit, pourquoi tu vas pas à la réunion ce soir? Il y a les réunions chez les gitans et tout ça. Ah, j'ai dit, après tout, allez hop, je vais y aller, quoi. Mais je vous cache pas, vous allez dans une réunion gitan où il y a 800 gitans, comme ils nous disent, les gars de Joe, nous. Alors, pour me donner du courage, j'avais bu 6-7 double Ricard. Je vous cache pas que j'étais bien. Hein. Je fumais comme un pompier, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Alors quand je suis arrivé, le bon chrétien avec sa Bible et tout, et puis c'est 7-8 double Ricard et tout. Et puis, je ne vous cache pas. Hein. Le Seigneur, il m'attendait, lui. Hein. J'ai transpiré, j'ai jamais autant transpiré de ma vie. Puis j'avais l'impression que cette transpiration que toute la salle sentait mon odeur, que je sentais mauvais, le tabac froid, l'alcool et tout ça, je ne vous cache pas. C'était l'horreur, l'horreur, l'horreur. Je suis parti en courant, vite fait de la salle, parce que j'en pouvais plus, je ne pouvais plus. Et puis, ma sœur attendait, ma sœur chrétienne attendait. Et puis, elle dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé toi? J'ai dit, bon, parle pas, je suis en miettes et tout, ça ne va pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis reparti en Normandie, j'ai rencontré un pasteur, il a prié pour moi, j'ai assisté à la réunion, et instantanément, je me suis repenti devant le Seigneur et tout. Et instantanément, libéré de l'alcool, 3 mois après, je passais par les eaux du baptême. Je ne vous cache pas, c'était vraiment fabuleux. 1 mois après mon baptême, il y a un pasteur qui est arrivé, qui prêchait sur la délivrance. Il prêchait, il disait comme ça, bah, ceux qui veulent avoir une délivrance sur l'alcool, le tabac, les drogues, ou même ceci, n'importe quoi, une délivrance, approchez-vous, je vais prier pour vous. Bah, je me suis approché, et je vous cache pas, j'avais acheté 3 paquets de cigarettes l'après-midi, donc Paul Gore, vraiment, qui était prêt à arrêter de fumer. Hein. Il a prié pour moi. Dès que je suis sorti de la réunion, la première chose que j'ai fait, j'ai jeté mon paquet de cigarettes. Je suis rentré à la maison, j'ai jeté les 2 paquets tout neufs. Ça va faire 5 ans bientôt maintenant, je n'ai plus touché une cigarette. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Et aujourd'hui, je vis à la communauté Sanctuary. Et c'est génial. Avec les hauts et les bas. Hein. Mais ça va, il y a plus de hauts. Hein. Je te laisse, Michel, hein, parce que sinon, hein, que Dieu vous bénisse, c'est frère et soeur.
Ça va? On avait normalement des invités qui devaient venir et ils devaient aller. Ah bonjour René, je n'avais pas vu, ça va bien, ça fait plaisir de te voir. Super. Ah ben comme ça vous êtes 2 dans la famille. C'est les 2 Dupont. Il ne manque plus que le chapeau melon, mais c'est bon. On avait des invités, ils devaient me téléphoner en arrivant à la Ferté-Vidame parce qu'ils ne savent pas exactement où se trouve la chapelle. Alors j'ai mon téléphone là, s'il sonne, Mélodie ira les chercher. Je crois, ils sont en retard, ils n'ont pas trouvé la Ferté-Vidame. Que Dieu les bénisse, je pense qu'ils seront quand même là pour le repas. Parce que ça ne sera pas tout de suite, je crois que le mouton est gros, vous avez vu ça? Psaume 14, versets 1 à 3, s'il vous plaît. C'est un psaume de David, voilà, David est devenu un homme, il est devenu un roi, et voilà qu'il a composé un chant. Et voilà ce que disait ce chant. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la dispensation, dans le temps de David, les choses ont changé. Dieu, voyant que ce n'était pas possible, que l'homme ne peut pas obéir à sa loi, il est venu lui-même dans un corps de chair afin de nous montrer comment on peut vivre quand on est en communion avec Dieu, par amour et non pas par peur. Et afin que nous soyons complètement en ordre avec lui, il a payé le prix que nous aurions dû payer, c'est-à-dire la mort. Dieu avait dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous étions tous coupables de péché. Alors Jésus a pris sur lui la peine que nous méritions. Nous ne sommes plus des condamnés à mort par Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Moi, tous les chrétiens meurent, vous allez me dire, oui, mais... Il y a mourir et mourir. Celui qui croit ne meurt pas vraiment. Il change de dimension. Il change de dimension. Il rentre dans la présence de Dieu. Il retourne à Dieu. Mais avant de mourir, on a des tas de choses à faire ici-bas sur cette terre. Sinon, ce serait ennuyeux si c'était simplement métro, boulot, dodo comme tous les terriens. Non, on a quelque chose de plus intéressant. Il nous a donné ce que la Bible appelle la prêtrise. La prêtrise. Chaque enfant de Dieu, chaque personne née de nouveau reçoit le pouvoir de la prêtrise. La prêtrise, elle est aussi puissante quand elle est exercée par un jeune que quand elle est exercée par un vieux comme moi, même des fois des plus vieux encore. Elle est aussi puissante, ce pouvoir de la prêtrise est aussi puissant quand il est exercé avec justice. Il y a des principes de justice qui s'appliquent à l'exercice de la prêtrise. Quand j'avais 18 ans, c'était le 1er juin, je me suis converti, comme notre frère Francis vous a raconté, ce qui lui est arrivé, ça m'est arrivé. Moi, je buvais pas, mais j'avais d'autres problèmes. Et je me suis converti, c'est-à-dire que j'ai fait demi-tour, j'ai changé de route, j'ai changé de chemin. Je n'ai pas embrassé une nouvelle religion, j'ai changé de chemin, j'ai décidé que Jésus était mon maître à 18 ans. Et vous voyez, ça fait longtemps maintenant, je suis toujours là à suivre le Seigneur. 3 jours après avoir reçu Jésus dans mon cœur, dans ma vie, quand je dis dans mon cœur, ça veut dire dans mon centre. Il est devenu le centre de ma vie. J'ai exercé pour la première fois le pouvoir de la prêtrise alors que je ne savais même pas que ça existait. Mais quand on l'a, on l'a. On n'a pas besoin de nous enseigner qu'est-ce que c'est. Quand on l'a, on l'a. Et Dieu a honoré mon acte de foi, ce que j'ai fait. J'avais vu Raphaël Duval, ce gitan, prier pour les malades. J'avais vu comment les aveugles retrouvaient la vue au travers de ses prières. J'avais vu comment les paralytiques marchaient. J'avais vu ça devant mes yeux. Et la petite fiancée qui était à côté de moi me dit, mais Michel, regarde là, il y a un homme, il faudrait l'emmener là-bas pour que Raphaël prie. Alors, avec ma copine, on a essayé de porter cet homme parce qu'il avait des béquilles, il était gros, puis en plus il avait la maladie de Parkinson, il tremblait de partout. Et j'ai dit, on va pas arriver à l'emmener jusque là-bas. Parce que c'était une effervescence dans cette église. Tout le monde courait, sautait dans tous les coins, les paralytiques avec leurs béquilles, les familles qui suivaient derrière. Enfin, ça aurait pu être dangereux pour cet homme, on aurait pu le laisser tomber. Alors, elle me dit, mais fais ce que le gitan fait. Il a dit, ceux qui croient, ils imposeront les mains aux malades. Fais-le! J'ai dit, après tout, pourquoi pas? Ça m'a paru très logique. Donc, j'ai posé mes mains sur cet homme. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ai fait comme le gitan. J'ai dit, au nom de Jésus, esprit de paralysie, quitte ce corps maintenant. Et après avoir prié, j'ai fait comme Raphaël. J'ai enlevé les béquilles. J'ai dit, marche! Et l'homme a fait. Et heureusement, il y avait une colonne qui était là. Il s'est affalé sur la colonne. Mais moi, ça m'a vexé. J'ai dit, il y a quelque chose de pas normal. Pourquoi Dieu répond à l'homme là-bas, à ce gitan? Et quand moi je prie, il répond pas. C'est pas normal. J'ai compris ça. J'ai compris que c'était pas normal. J'ai pris cet homme à bras le corps et là, je vous assure, ma foi m'a donné des forces. Il y avait quoi, 5-6 mètres à faire. J'ai poussé les gens avec mes pieds comme ça et j'ai porté cet homme dehors. Je l'ai mis dehors. Et arrivé dehors, il y avait un perron avec des marches d'escalier. Je l'ai mis devant les escaliers. Je dis maintenant, Seigneur, je ne peux pas te prouver plus que je crois en toi. J'ai prié, j'ai fait ce que je devais. Maintenant, fais ce que tu as promis. Et j'ai poussé l'homme dans l'escalier et il était guéri. Il a marché, il est monté, il est descendu, il était guéri. Alléluia! Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Alléluia! J'aime bien le mettre en colère. Pauvre diable. Dieu a honoré mon acte de foi en guérissant miraculeusement cet homme. Des gens avaient suivi et ils ont été vers Raphaël. Ils ont dit, il y a un jeune là-bas. Vous auriez vu l'allure. J'étais blouson de cuir, chemise, parce que quand, à 18 ans, j'étais déjà poilu comme un singe, très fier de tout ça, j'ouvrais ma chemise jusque-là, tout débraillé et tout. J'ai dit, viens, fais-le venir, faites-le venir. Il y avait beaucoup de... J'avais vraiment pas l'air d'un pasteur, hein. J'essaye d'avoir l'air d'un pasteur, j'arrive pas. J'arrive pas à ressembler à un VRP, je peux pas. Donc voilà, Raphaël Duval, qui présidait cette réunion durant laquelle ce miracle a eu lieu, m'a fait venir et j'ai été au bénéfice de son intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle de ce gitan illettré. Je pouvais pas expliquer à l'époque, sur le moment, mes impressions vraiment, mais avec le recul maintenant, en y repensant, je m'aperçois que simplement Raphaël a manifesté en ce moment-là 3 choses de la plus haute importance. Tout de suite, là, quand il a été témoin, il a vu que cet homme a été guéri, il a eu le témoignage de la chose, il m'a demandé de l'accompagner pour que je prie pour la foule de malades qui était là. Il y avait plein de malades. Étant donné que ce ministère de Raphaël Duval était connu pour être un ministère de guérison, il y avait plein de malades qui étaient tout le temps dans ces réunions. Donc, Raphaël, voyant que Dieu avait exaucé ma prière, il m'a demandé de prier avec lui. Ça faisait seulement 3 jours que j'étais converti. J'étais pas baptisé. J'étais ni du Saint-Esprit, ni de l'eau, ni rien du tout. J'avais même jamais été posé, moi, derrière dans une église évangélique. Je ne savais même pas ce que c'était. Dieu a tellement béni cette soirée. Des aveugles ont retrouvé la vue. La première personne pour qui j'ai prié, aveugle, ce soir-là, elle me regarde. Je dis, vous me voyez? Elle me dit, oui, mademoiselle. Je dis, non, vous ne me voyez pas. Je repris. Et la deuxième fois, elle était guérie. C'était extraordinaire. C'était des soirées bénies. Et mais tout ça, Raphaël, c'est parce que Raphaël n'a pas douté que Dieu s'était servi de moi. Pour le miracle du parkinsonien, je ne sais pas si ça se dit ça. Et il est entré, Raphaël est entré dans le jeu de Dieu, c'est-à-dire il a mis en pratique les principes qui régissent la vie. Il ne s'est pas occupé des traditions religieuses humaines qui veulent qu'un jeune homme qui se convertit aille à l'école biblique pendant 3 ou 4 ans et puis ensuite qu'il devienne le stagiaire d'un pasteur pendant presque autant de temps jusqu'à ce qu'enfin un conseil d'anciens barbus se réunisse pour lui dire oui ou non vous méritez votre carte de pasteur, donc la possibilité d'exercer la prêtrise avec imposition des mains, etc. Mais il s'est foutu de tout ça. Il a vu que Dieu avait répondu, il a dit Dieu est avec cet homme. C'est logique, non? C'est logique. Il a agi selon la foi que donnent les saintes écritures, la simplicité. Premièrement, voilà les 3 principes dont je vous parlais. Premièrement, il a fait confiance au jeune homme que j'étais. Deuxièmement, il attendait beaucoup de moi, mais avec beaucoup d'amour. Et troisièmement, il m'a formé encore et encore pendant tout le reste de sa mission en Suisse qui a duré tout l'été, afin que j'accomplisse avec excellence ce qu'il attendait de moi. Et non pas comme un bricoleur, parce que c'est évident que quand on est livré à nous-mêmes, on peut faire des bêtises, il vaut mieux être formé. Frères et sœurs, chaque fois qu'une personne ou qu'un groupe de personnes manifeste ces 3 choses envers moi, je fais des progrès. Faites-moi confiance, vous allez voir. Je suis certain que vous devriez faire des progrès dans l'exercice de la prêtrise, car dans la communauté, nous agissons avec ces 3 principes. Mais il y a un mais, tout à l'heure Alain disait une condition. Personne en dehors de vous-même ne peut exercer le pouvoir de la prêtrise. C'est à vous de vous lancer. Si j'avais pas bougé, si j'étais resté parmi les 600 personnes qui étaient là, eh ben c'était une belle réunion et puis point final. Mais j'ai bougé. C'est à vous d'y croire suffisamment pour manifester les dons qui sont les vôtres, pour manifester les talents qui sont les vôtres. Je redis, c'est à vous d'exercer vos pouvoirs de prêtrise, c'est à vous. Vous avez la confiance de Jésus pour ça. Il a dit que vous pouviez le faire, on peut le lire dans la Bible, c'est écrit dans Jean chapitre 14, verset 12. On va le lire.
Sinon vous allez peut-être penser que c'est pas vrai.
Jean chapitre 14, versets 11 et 12. Croyez-moi, c'est Jésus qui dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi, croyez du moins à cause de ses œuvres, c'est-à-dire à cause des miracles que je fais. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus dit que vous, si vous croyez, vous pouvez faire les mêmes choses que lui, et même encore de plus grandes. C'est quand que vous avez fait au moins une chose qui est à peu près le 10e de ce qu'il a fait? Vous pouvez faire des choses même plus grandes que lui. Vous voyez, c'est illimité. Regardez la vie de Jésus, regardez son ministère, regardez les choses qu'il a vécues. Vous pouvez faire la même chose et même plus grand. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. La communauté sait que Jésus vous fait confiance. Je sais que Jésus vous fait confiance. Et aussi, je sais qu'il vous a confié sa parole. Vous pouvez l'utiliser. Il vous a confié ses promesses. Vous pouvez les revendiquer. Il vous a confié des talents qui vous sont propres. Ils sont à vous. Mais maintenant, il faut les faire valoir. Frères et sœurs, nous sommes conscients dans la communauté de la confiance que Jésus a en vous. Alors, puisqu'il vous fait confiance, lui, la communauté vous fait confiance aussi. Sinon, si nous ne vous faisons pas confiance, nous péchons. Nous nous mettons plus haut que Dieu, qui lui vous fait confiance. Alors, bougez! N'attendez pas que quelqu'un vous dise de le faire, faites-le.
Raphaël m'a fait confiance. Et nous vous faisons confiance. Ça, c'est le premier point. Et les deux autres points sont étroitement liés au premier point. La forte attente. Raphaël attendait quelque chose de moi. Et la formation qui vous permettra de réaliser votre excellence. Cette formation, elle existe. Pourquoi on se réunit ici? Pour ça. Rien que pour ça. Pas simplement pour que notre connaissance augmente. La Bible dit la connaissance augmente. Mais c'est rien, c'est comme un bœuf qui enfle. Il faut que ça serve à quelque chose. Mes frères et sœurs, j'ai une forte attente. J'attends beaucoup de vous, avec amour, patience, mais j'attends beaucoup de vous. Nous attendons beaucoup de vous. Nous attendons que vous exerciez le pouvoir de votre prêtrise. Il y a des églises où on croit que c'est que les hommes qui ont le pouvoir de la prêtrise. Et les femmes rouspètent dans ces églises. Elles ont raison. Mais ici, nous croyons, comme la Bible dit, que les hommes et les femmes ont cette prêtrise. Chez nous, les femmes n'ont pas à rouspéter, juste à se mettre au boulot. Alors allez-y, profitez-en. Il y a des foules de malades, il y a des foules de personnes qui sont dans la confusion, il y a des foules de personnes qui sont dans le malheur, qui attendent qu'une chose, c'est que vous ouvriez votre bouche, qui attendent qu'une chose, que vous mettiez vos mains sur leur corps afin qu'ils soient guéris. Vous savez, même Jésus en son temps n'y suffisait pas. C'est pourquoi il a délégué. Il a délégué, il a fait confiance à qui? À ceux qui le suivaient, pas à tout le monde, juste à ceux qui le suivaient. Et il les a formés en vue de l'excellence pour un service de qualité. C'était qui ces hommes? Des nouilles! Des vraies nouilles! Des abrutis! Quand on lit les Écritures, on s'aperçoit que il a vraiment mal choisi son équipe. Comme ils sont comme nous, quoi, des nouilles. Regardez ce gitan Raphaël, comme l'apôtre Pierre, ni lire ni écrire. Et pourtant, quel homme de Dieu, ce Raphaël. Quel homme de Dieu. Alléluia. Hein, voilà, c'est l'instruction, avec l'instruction. Oui, mais moi, j'ai lu que quelque part. M'en fous de toutes tes histoires. Prouve par ta vie que tu as quelque chose qui vient de celui qui t'a créé. Raphaël a fait de même avec moi. Comme Jésus a fait avec ses disciples, il a fait de même avec moi. Pourquoi? Parce que je le suivais, c'est-à-dire parce que je me suis mis à marcher sur ses traces. Mon but, c'était pas de dire, tiens, je vais marcher sur ses traces. Non, je l'ai fait spontanément. C'est ma copine qui me dit, mais dis donc, ça m'a paru logique. C'est logique. Les choses de la foi répondent à une logique, pas à la logique des principes de ce monde, peut-être, mais il y a d'autres principes. Ceux de Dieu, et croyez-moi, ceux-là, ils sont infaillibles. Pourquoi est-ce que Raphaël n'a pas fait ça avec les 600 personnes qui étaient avec lui, ce soir-là, dans cette réunion? Mais parce qu'elles étaient venues pour recevoir. Et moi, bête comme je suis, j'ai quand même compris que j'avais quelque chose à donner. Vous voyez la différence? C'est ça la différence. Trop de chrétiens prient, demandent. Mais ne font pas le quart de ce que Jésus leur dit qu'ils peuvent faire. Quel dommage. Le monde irait tellement mieux. Qu'est-ce qu'il a fait, Raphaël? Exactement ce que Jésus a fait avec ceux qui le suivaient. Alors, je résume. 1. Jésus et Raphaël m'ont fait confiance. 2. Jésus et Raphaël attendaient beaucoup de moi, mais avec beaucoup d'amour, heureusement, parce que sinon j'aurais été mort de trouille. 3. Jésus et Raphaël, ils m'ont formé encore et encore afin que j'exerce avec excellence la chose qu'ils attendaient de moi. Et il en va de même pour vous. Il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Nous sommes tous frères et Dieu est notre Père. Toutes les conditions ont été réunies de mon côté. Et toutes les conditions sont réunies pour vous. Je vous fais confiance, j'attends beaucoup de vous et je vous forme encore et encore. Personne ne pourra m'accuser un jour de ne pas avoir fait ce que je devais faire pour votre formation. Mais maintenant, c'est à vous d'exercer le pouvoir de votre prêtrise. Car cela, ni moi, ni même Jésus ne peut le faire à votre place. Personne ne peut le faire à votre place, c'est vous. Nous sommes en marche, je vous expliquais ça vendredi, nous sommes en marche, nous allons de l'avant. Et quelque chose de glorieux s'ouvre sous nos pas, je vous l'ai démontré vendredi soir dans ma prédication. Et ce que j'attends, c'est que vous vous mettiez au niveau de l'attente de Jésus. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Alors, excusez-moi, surtout ceux qui regardent la télé là, excusez-moi, hein, ceux qui écoutent sur Internet, excusez-moi, mais je vais encore dire des choses déplaisantes que certains auditeurs me reprochent de dire souvent. Dans les diverses églises, les gens se mettent au niveau de ce que les dirigeants attendent d'eux. Ils assistent aux réunions, aux messes, ils donnent du pognon, voilà ce qu'on attend d'eux. On les culpabilise suffisamment pour qu'ils aient envie de revenir parce qu'ils ont... Ça recommence. On attend d'eux qu'ils soient honnêtes, des honnêtes citoyens. Voilà, eh bien, c'est ce que font les chrétiens. Ils sont gentils, ils vont dans leur culte, dans leur réunion de prière, tout ça, ils donnent leur dîme, ils sont d'honnêtes citoyens, c'est super. Et les pasteurs sont ravis, les prêtres sont ravis. D'ailleurs, si quelqu'un manifeste quelque chose d'extraordinaire par la foi, on va vite le faire se rasseoir, hein, parce que ça pourrait faire ombrage au saint sacro-saint ministère de monsieur le pasteur ou de monsieur le curé. Voilà, j'ai fini maintenant. On veut qu'il rentre dans le troupeau. Non, j'arrête. j'arrête, sinon je vais devenir méchant. Ici, moi, je m'applique à vous donner la vision la plus grande, la vision que Jésus donne dans la Bible. Pourquoi cette vision est-elle si cruciale? Parce que quand la vision est grande, la motivation est grande. Vous voyez le champ de mission? Mais c'est illimité. Il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais c'est écrit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Oui, mais dans quel pays? Jésus te dit, je m'en fous de tes questions m'embêtent. Je t'ai dit, va. Ah, mais arrête avec tes prières. Va dans le monde entier. Vas-y, c'est à toi. Vas-y. Et prêche la bonne nouvelle. Il a dit, nul n'est prophète dans son pays. C'est pourquoi, moi, ça, je suis suisse. Au début, j'étais pas dans mon pays ici, donc ça marchait super bien. Mais voilà, ça fait trop longtemps que je suis ici. Maintenant, je commence à être un peu chez moi. Ça marche plus. Ah ben, je vais ailleurs. La terre est grande. Il y a des... Mais c'est incroyable, les millions de personnes qui attendent, mes frères et sœurs, ils vous attendent. Achetez un billet d'avion, allez-y. Ne vous découragez pas devant l'immensité de la tâche. Ne vous découragez pas. Dieu vous donnera sur le moment, Alain disait tout le temps, tout de suite, Dieu est le Dieu du dernier moment. C'est au dernier moment très souvent qu'il fait les choses. Il vous donnera sur le moment la force nécessaire, les moyens d'accomplir ce qu'il attend que vous accomplissiez. Mais il le fera, au dernier moment, mais il le fera. Il veut d'abord que vous fassiez le premier pas, c'est ça. C'est pourquoi Jésus a marché sur l'eau. C'est pour nous montrer que c'est le premier pas qui compte. Il regarde. On vient de lire que Dieu regarde. C'est notre Père, c'est la fête des Pères. Bravo papa. C'est la fête des Pères, il nous regarde. 1 sur 600. Ce fameux juin, au mois de juin, là-bas à Lausanne, avec Raphaël. Mes frères et sœurs, vous avez déjà été choisis. Quand vous avez quitté les 600 bêlants, là, les 600, c'est symbolique, hein, je veux dire, tous ceux qui bêlent, pour vous joindre à mon ministère, vous avez osé vous lever, vous avez osé affronter l'étrangeté de mon histoire, vous avez osé, malgré les mauvais témoignages qui pleuvaient contre moi à l'époque et qui continuent encore de temps en temps, vous êtes sorti de cette Babylone pour vivre le rétablissement que Jésus est en train d'opérer dans son Église. Souvenez-vous, écoutez et comprenez avec l'esprit de prophétie, pas simplement avec votre intelligence, avec l'esprit de prophétie, ce premier miracle-là, avec ce Parkinsonien, le 3 juin 68. Où est-ce qu'il a eu lieu? Dans l'église? Non. Dehors. Dehors. C'est là où sont les gens. C'est pas dans les églises que sont les gens. Les vrais gens qui souffrent et qui vous attendent. C'est pas dans les églises. C'est dehors. Bien sûr qu'il y en a qui souffrent aussi dans les églises. On s'en occupe aussi un petit peu. J'ai conduit cet homme dehors. Eh bien, mes frères et sœurs, en dehors de l'assemblée. En fait, à ce moment-là, j'étais sans le savoir le prémisse de ce que vous êtes. Des gens de foi qui sont sortis des églises, sortis de Babylone. Et là, Dehors, c'est là que Jésus a guéri le malade. Quand j'étais dedans, il ne s'est rien passé. Je vous dis, écoutez ça avec l'esprit de prophétie. Regardez ça avec une intelligence spirituelle renouvelée. Dedans, il ne s'est rien passé. C'est dehors que ça s'est passé. Et les chrétiens qui m'avaient suivi, pour voir ce que j'allais faire, ces chrétiens-là, ils m'ont fait retourner dedans. Et c'est exactement ce que nous faisons encore aujourd'hui. Nous sommes dehors, c'est vrai, nous sommes sortis de toutes ces organisations, mais on m'invite, on nous invite encore et encore, et on exerce ce pouvoir de la prêtrise chez eux. Encore dimanche prochain, on doit assurer 2 cultes dans la région parisienne. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, la même chose que toujours. C'était quand il y a 15 jours, la dernière fois qu'on a fait, les pasteurs et les anciens se regardaient. Ils ne savaient plus si c'était du lard ou du cochon. Des miracles pleuvaient. Ça pleuvait. Pourquoi Dieu fait des miracles? Parce qu'il aime les gens, mais surtout pour prouver que ce qui est dit est vrai. C'est écrit dans Marc chapitre 16. Il dit que Jésus les accompagnait par des signes et des prodiges afin de comment c'est écrit ça? Confirmer que ce qu'il disait était vrai. Jésus aime ces gens qui sont assis en randonnion. Jésus les aime. Ils sont un peu énervants, mais... Mais vous voyez, je vous disais vendredi que selon la prophétie, les promesses qui m'étaient faites ne m'ont pas été données qu'à moi, mais c'est à vous qui voulez marcher comme cela. Maintenant que par révélation, l'Église elle est rétablie dans sa position première, c'est-à-dire que nous avons compris que l'Église que Jésus voulait, c'était une Église communautaire. Maintenant que c'est rétabli comme celle dont Jacques était le responsable à Jérusalem, l'esprit de révélation, il est sur chacun de ceux qui, ici même, demandent. Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu une aventure incroyable de se lancer comme ça, un peu de l'insouciance. Moi, j'étais un peu insouciant. J'étais, rendez compte, pousser cet homme dans l'escalier, c'est pas normal. Jésus peut et Jésus veut donner la solution à votre problème. Moi, il s'est servi d'une petite fille, là, qui s'appelait Claire-Lise, pour me dire, mais est-ce que le gitan fait? Il a dit que tous les chrétiens peuvent le faire. Et ça m'a paru logique. J'ai pas réfléchi, mais peut-être vous réfléchissez, vous dites, mais comment? Ça va être difficile, comment il faut que je fasse? J'ai charge de famille, j'ai ci, j'ai ça, comment? Jésus veut vous parler. Pouvez-vous imaginer qu'il y ait un problème que Jésus ne puisse pas résoudre? Demandez et vous recevrez. Il résoudra ces problèmes alors que vous vous serez mis en marche par la foi, que vous aurez commencé à faire le premier pas. Il ne fera jamais rien avant. Il faut d'abord que vous montriez que vous voulez. Pourquoi? Parce que Jésus, la Bible nous dit qu'il est le consommateur de la foi, c'est-à-dire il se nourrit de votre foi. Il est glorifié par vos actes de foi. Il est grandi par vos actes de foi. Parce qu'il est manifesté sur cette terre par vos actes de foi. L'autre soir, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Michel, tu voudrais que tout le monde soit comme toi. C'est pas tout à fait vrai, quand même un petit peu, mais pas tout à fait vrai. Je voudrais pas que vous ayez mes tares. Je voudrais pas que vous ayez mes problèmes, mes soucis. Mais oui, je voudrais que vous ayez les bénédictions que j'ai. Oui, je voudrais que vous ayez cette vie exaltante. Oui, je voudrais. Et puis en fait, si vous regardez bien, Jésus, il est aussi un peu comme moi, non? Il ne voulait pas que ses disciples aillent à la croix. Par contre, il voulait qu'ils soient aussi bénis que lui. Il a dit, les choses que je fais, vous pouvez les faire. Et je vais vous expliquer comment. Il voulait avoir des disciples. Il voulait que les gens deviennent comme lui. Donc je fais moins de complexe. Paul, il avait compris ça, l'apôtre Paul. Il avait compris ça. C'est pourquoi quand il écrit aux chrétiens, il leur dit, vous trouvez ça dans la Bible, je suis un imitateur de Jésus. Il imitait Jésus du mieux qu'il pouvait. Moi, au début, je ne pouvais pas imiter Jésus, je ne savais rien de Jésus. Par contre, je savais ce que le gitan savait faire. Et j'ai regardé ce qu'il faisait, j'imitais Raphaël. Et c'est tout. Après, j'ai trouvé ma personnalité. Paul, il imitait Jésus. Et Paul dira un peu plus loin, « Soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis imitateur de Christ. » Il n'avait pas peur de dire « Faites comme moi. » Jésus, Paillon, il disait, « Si vous êtes jaloux, vous n'avez qu'à faire comme moi. » Il avait raison. Jésus voulait cela. Et c'est ce que j'ai fait.
Il disait, et c'est ce que j'ai fait, je veux que vous le fassiez aussi. Mais mes frères et sœurs, pour pouvoir faire ce qu'il faisait, il faut que vous soyez ce qu'il était. Alors là, ça commence à devenir un petit peu grave. Michel, est-ce que c'est pas une hérésie, ça? Tu nous dis qu'il faut qu'on soit ce qu'il était. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est pas une hérésie. Simplement, beaucoup de gens méconnaissent les Écritures, donc les intentions de Jésus. Pourquoi Dieu a voulu qu'on ait ce livre? Pour qu'on puisse connaître son caractère et ses intentions. Et l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, a écrit dans sa première lettre, chapitre 4, verset 17, « Tel que Jésus est, tel vous êtes dans ce monde. » Mais qui croit ça? On nous enseigne que nous sommes des pauvres vermisseaux. On est des pécheurs sauvés par grâce, on ne vaut rien du tout. On n'est rien, on est des minables. On dit, mais on le sait qu'on est des pécheurs, mais on est des pécheurs sauvés. Des pécheurs pardonnés. Des pécheurs en qui Dieu fait confiance. Des pécheurs que Dieu aime tellement qu'il attend des choses de nous. Il nous confie, il veut nous former, il veut nous aider, il veut nous conduire, il veut nous fortifier, il veut qu'on arrive à sa stature parfaite. Non, mais c'est pas extraordinaire, ça? Arrêtez de dire, un pauvre pécheur, oh là là, si vous saviez comme je suis minable. Jésus, Raphaël, Osborne et moi, vous voyez un petit peu la lignée, nous vous faisons confiance, mes frères et sœurs. Nous attendons beaucoup de vous, avec amour, et nous vous formons en vue de l'excellence de l'accomplissement de votre tâche. Il peut vous aider à résoudre tous les problèmes que vous avez à résoudre à condition que vous demandiez son aide. Avez-vous demandé son aide? Sans oublier, mes frères et sœurs, quand même, faut être logique, que ces révélations que Dieu va vous donner ne vous dispenseront pas de l'obligation de faire votre part. Il faut faire votre part et la faire d'abord. C'est là qu'on intervient la foi. C'est là qu'intervient ce pas sur l'eau. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? N'oubliez pas, si vous voulez la révélation, faites d'abord votre part. Premièrement, comment ai-je eu la révélation que Raphaël me faisait confiance? Je l'ai eu après avoir fait ma part. Comment est-ce que j'ai su qu'il avait besoin de moi devant une si grande foule de malades? Je l'ai su après avoir fait ma part. Ça s'est révélé. Comment est-ce que j'ai su que j'étais au bénéfice, qu'il allait me mettre au bénéfice de sa formation? Je l'ai su après avoir fait ma part. Ça s'est révélé. Il m'a pris en charge pour me former. Mais si je n'avais rien fait, ben je serais resté comme les 600. Sorti de la réunion, ah, c'était bien, dis donc, faut qu'on se dépêche parce qu'il y a le train. L'ordre est ainsi. Quand je dis l'ordre, ça veut dire l'ordre établi est ainsi. Un, occupe-toi de mon royaume. Deux, je m'occuperai de tes affaires. N'est-ce pas Jésus qui a dit ça? Occupez-vous premièrement de mon royaume et de sa justice et je m'occuperai de vos affaires. Pas le contraire. Pas, Seigneur, si tu t'occupes de mes affaires, je te promets que je vais faire ce que tu dis. Non, ça ne marche pas comme ça. On vit aujourd'hui dans un monde où tout va très vite. Il y a un mode de fonctionnement dans ce monde. Ça marche comme ça marche, hein, des choses qui marchent. Voilà, hein. Et puis, il y a un mode de fonctionnement dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est sur cette terre, nous en sommes partis, et c'est un autre mode de fonctionnement. Regardez Jésus, né dans une étable, c'est pas le mode de fonctionnement du monde. Hein? Bon. Regardez Jésus accomplissant l'œuvre la plus extraordinaire, la plus magnifique dans le jardin. C'était un simple jardin, c'était anonyme, jardin de Gethsémani. Bon. Personne s'en est aperçu. Bon. Les réponses de Dieu se manifeste pas avec bam, 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 des grandes trompettes et des machins, des trucs. Non, 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 non. C'est dans des murmures doux et légers. Il faut que vous soyez à l'écoute, à l'écoute. Et on dit toujours, il y a 10 commandements. C'est pas vrai, il y en a 11. Parce que le premier, c'est écoute, ô Israël. Et ça, c'était le plus grand problème d'Israël parce qu'ils savaient pas écouter. C'est toujours pas d'ailleurs. Écoute, ô Israël. On peut pas leur jeter la pierre, on est pareil. Il faut qu'on apprenne à écouter. Et ces révélations, elles viennent souvent comme des minuscules graines de pensée. C'est tout petit, mais quand on respecte ces petites graines de pensée
celles que je vous donne, par exemple, aujourd'hui, ces trois points-là, si vous les respectez, si vous les nourrissez dans la prière, en demandant à Dieu que cela grandisse en vous, que cela prenne racine, ça peut devenir des séquoias spirituels. Vous savez ce que c'est qu'un séquoia? Jésus vous fait confiance, il attend beaucoup de vous et il a promis qu'il vous formera. Et sa tâche principale, la chose qu'il aime le plus, c'est le salut des gens qui vivent dans l'ignorance, dans la confusion, qui ne savent pas à quel point Dieu les aime et qui sont en plus maltraités par des gens qui se réclament du nom de Dieu. C'est la tâche numéro un qu'Osborne a toujours été fidèle à cette tâche. Jamais il s'est écarté de ça. C'était le numéro un, l'évangélisation. Ensuite, il a communiqué ça à Raphaël. Et pour l'aider à le faire mieux, il lui a payé deux chapiteaux pour qu'il puisse aller parcourir l'Europe en prêchant l'Évangile. C'est pas magnifique ça? Il n'a pas simplement dit « je vais prier pour toi hein ». Et puis Raphaël, ensuite, quand je l'ai rencontré, il m'a communiqué ça. C'est pourquoi je dis Jésus, Osborne, Raphaël et moi, ça fait une lignée. Parce qu'on a la même pensée, le salut des gens qui sortent de ce marasme. Et je m'attelle à faire connaître Jésus dans le monde. Et je vous passe le bâton aujourd'hui. Faites-le. Faites-le. Parce que ce que je fais, vous ne pouvez pas le faire, mais ce que vous ferez, moi je ne vais pas le faire à votre place. Ce n'est pas possible. Et vous n'avez pas besoin d'attendre plus que ce que Jésus dit dans la Bible pour aller le faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir une carte de pasteur ou d'évangéliste ou d'apôtre ou de prophète international, intergalactique ou que sais-je. D'abruti. Pardonne-moi Seigneur, mais mon Dieu. Non, on pardonne pas. Même pas besoin de pardon parce que c'est vrai, c'est comme ça. Pas besoin d'appel pour ça. Juste un petit peu de conscience. Juste un petit peu de conscience. Parce que quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on fait quoi? On fait la nôtre. Hein, on s'occupe de nos petits nombrils, nos petits machins, nos petits trucs. On pousse à gauche, on pousse à droite pour pouvoir avoir la place. Pour pouvoir... Non, celui qui fait la volonté de Dieu s'occupe premièrement des autres et Dieu le bénit, s'occupe de ses affaires et les choses prospèrent. Si un homme peut le faire, alors tout être humain peut le faire à partir du moment où il est en ordre avec Dieu. C'est la sorte de foi que Jésus a insufflé à ses premiers disciples. Et c'est ce qui doit être enseigné au temps du rétablissement de toutes choses. C'est fini le temps des super hommes de Dieu, infaillibles, avec des pouvoirs mystérieux, un ministère intouchable. Tout est possible à celui qui croit, a dit Jésus. Hein? À celui qui croit, homme, femme, enfant. Quoi qui est possible? Tout. C'est quoi tout? C'est illimité. Et on se laisse limiter par des idioties religieuses. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Relevez le défi que Jésus vous lance ce matin et faites la preuve que c'est vrai ce qu'il dit. Dans cette salle, là-bas, la Maison du Peuple à Lausanne, en 68, Raphaël avait un auditoire de 600 personnes. Il y a eu juste un jeune homme qui a relevé le défi, c'était moi. Et au début, on lisait, au début de ma prédication, on lisait le psaume 14:1-3. Dieu se cherche un homme et il n'en trouve pas. Ça, c'était à l'époque de David. Maintenant, il y en a un sur 600, il paraît. Non, c'est pas vrai, je dis des bêtises. Il y a quand même quelques hommes, quelques femmes qui se bougent. Un jour, Jésus a dit, « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ?» Dieu regarde ici ce matin. Est-ce qu'il y a de la foi ici? Parlons pas de la terre, parlons d'ici. Est-ce qu'il y a la foi ici? Attention, la foi c'est actif. La foi c'est actif. Est-ce que tu vas te lever ce matin? Est-ce que tu vas te lever et dire, Seigneur, je suis là. Restez tous assis. Seigneur, je suis là, je sais que tu m'as pardonné. Je crois que tu m'as aimé, que tu as payé la dette, que tu as payé le prix, la mort que je méritais, tu as tout payé à la croix. Je sais que tu m'aimes, que tu m'as pardonné. Je te remercie, Jésus, merci parce que je suis un pécheur, tu m'as pardonné. Merci, mon Dieu. Je sais et je ne veux plus attendre. Je veux me mettre à faire ta volonté. Forme-moi, conduis-moi, donne-moi envie de lire la Bible pour apprendre. Donne-moi à faire les choses correctement, à atteindre cette excellence. Forme-moi. Aujourd'hui, c'est la fête des pères et notre Père qui est aux cieux nous regarde. Et voilà comment je perçois son amour, son regard sur nous. Le regard du Père. Juste avant de venir, ma prédication était préparée, tout était prêt. Et juste avant de venir dans mon bureau, j'ai regardé si j'avais des petits messages sur Facebook. Et il y avait un petit message de ma sœur Anta Chateau. Vous connaissez Anta Chateau, cette femme magnifique avec son mari Alex, qui s'occupe d'orphelinat à Madagascar. Elle a écrit un poème. J'aime pas les poèmes. Mais un poème comme ça, j'aime bien. Anta Chateau. Et ça a confirmé que ce que j'avais à vous dire ce matin, c'était vraiment de Dieu. Écoutez ce qu'elle a écrit. Le regard du Père, ça ne s'invente pas. Ton regard me dit que j'ai de la valeur et que je suis apprécié. Ton regard, ô Dieu, dit que j'ai des talents à développer. Malgré mes erreurs, je peux progresser. Ton regard, ô Père, ton regard me dit que les limites existent pour ma sécurité. Les dépasser, c'est me mettre en danger. Alors malgré mes écarts, je suis toujours aimé. Ton regard, ô Père, ton regard me dit que l'avenir est à écrire, que je peux choisir, mes aspirations peuvent s'épanouir, le peu que je crée peut toujours grandir. Ton regard me dit que je peux essayer ce qui n'a jamais été fait. Je n'ai pas à avoir peur de commencer. La nouveauté, c'est le bénéfice de la diversité. Ton regard, par ton regard, avec tant d'égards, sans menace ni peur, je peux donner le meilleur. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous aimer tellement et de nous faire tellement confiance. Je te prie que chacun ici reparte en disant où sont les problèmes pour que j'aille au nom de Jésus les résoudre. Avec ma foi, avec ce que j'ai reçu ce matin. Où sont les pécheurs afin que je leur annonce la bonne nouvelle que Jésus est leur sauveur, qu'ils n'ont plus à chercher à tâtons le secret du bonheur ou l'épanouissement personnel ou que sais-je. Seigneur, que chacun se prenne au sérieux ce matin et se mette à faire valoir le pouvoir de la prêtrise. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.